Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de nous retrouver sous son regard. J'ai entendu vos prières et plusieurs vous avaient dit que nos enfants soient touchés. Je pense que tous nous voulons que les gens autour de nous soient touchés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais peut-être que, avant que les autres ne soient touchés, il faudrait que tout à nouveau, nous les premiers, nous soyons de nouveau touchés par le Seigneur. Et c'est un peu le titre de ma prédication, être touché tout à nouveau. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, c'est passé le jour de la résurrection. Ils n'avaient pas tout compris, comme nous aujourd'hui, même si nous avons beaucoup de révélations par les Saintes Écritures. Est-ce que vous pensez que nous avons tout compris? Est-ce que vous pensez que depuis que vous marchez avec Dieu, vous avez tout saisi? Non. Je pense que ce n'est pas possible. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, ça serait bien de lire tout ce chapitre où le Seigneur s'est approché de ses deux disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient pas, qui étaient dans l'interrogation, et comment Jésus s'est approché d'eux pour les aider. Mais le texte qui nous intéresse, c'est au verset 44 du chapitre 24. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce verset que je voulais prendre en introduction. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Moi, je pense que, moi le premier, nous avons besoin que notre esprit soit ouvert sur les choses spirituelles pour bien comprendre ce que Dieu veut faire. Nous allons faire deux autres lectures. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, au verset 14, c'est le jour où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, qui était alitée à cause de la fièvre, qui ne pouvait donc rien faire à cause de la fièvre. Et c'est un peu ce qui peut arriver lorsque notre esprit est bouché, lorsque nos yeux sont fermés, eh bien nous ne faisons rien. Nous ne faisons presque plus rien pour Dieu, et nous sommes fiévreux, et nous avons besoin de cet attouchement de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ce texte, dans Matthieu, chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Amen. Vous voyez, une femme qui ne pouvait plus rien faire, et bien tout d'un coup, parce que Jésus l'a touchée, et bien elle a pu se lever et servir. Et dans le livre des Actes au chapitre 16, vous connaissez cette histoire qui s'est passée à Philippe, enfin à côté de Philippe, une rivière. Ça s'est passé au bord d'une rivière. Vous savez, le Seigneur, il sait où on se trouve. Vous le savez? Qu'on soit à l'église, qu'on soit à bord d'une rivière, qu'on soit n'importe où dans un bois, qu'on soit... Est-ce que le Seigneur, il sait où on est? Oui, il le sait, le Seigneur. Actes chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc encore une femme. On vient de parler de la belle-mère de Pierre. Là, on vient de parler de cette femme, Lydie, qui, parmi toutes ces femmes qui priaient, combien étaient-elles? 15, 20, 40, j'en sais rien, on ne sait pas le nombre. Mais une chose est sûre, c'est que parmi toutes ces femmes, une a vraiment été touchée par Dieu. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas touché toutes ces femmes? Moi, c'est la question que je me suis posée de suite quand j'ai lu. J'ai dit, tiens, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Pourquoi n'a-t-il pas ouvert le cœur de toutes ces femmes, puisque toutes étaient en train de prier? Eh bien, c'est un petit peu écrit. C'est que cette femme avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle était attentive aux choses spirituelles. Il nous est dit qu'elle craignait Dieu et qu'elle écoutait. Alors oui, comme je l'ai dit en introduction, je pense que nous avons besoin d'être à nouveau touchés par la grâce de Dieu. C'est une affaire strictement personnelle. Comme cette femme a été touchée particulièrement à cette réunion de prière, il va de soi que c'est une expérience qui nous est propre. Le jour de la Pentecôte, nous le voyons, lorsqu'ils étaient embrasés, ils ont eu le cœur vivement touché. Vous connaissez ce texte, il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais avant que ces âmes par milliers soient touchées, Il ne faut pas oublier que ce sont les 120 qui, au préalable, avaient, eux, été touchés par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons que nos enfants soient touchés, que les gens que nous côtoyons soient touchés. Franchement, c'est ce que nous voulons le plus. Mais peut-être il faudrait que nous commencions à dire, Seigneur, d'abord, touche-moi de nouveau. Touche-moi de nouveau dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'écouter, comme Lydie, dans ma façon peut-être de servir. La belle-mère de Pierre, elle ne risquait pas de pouvoir servir. Elle ne pouvait pas servir à cause de sa fièvre. Et moi, je crois que des fois, spirituellement, il y en a qui ont la fièvre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça peut nous arriver d'avoir la fièvre? La fièvre, c'est, vous savez, la température du corps qui monte et on ne peut plus rien faire. Et j'ai bien peur que beaucoup de chrétiens, hélas, soient spirituellement fiévreux, pas dans le domaine humain, pas dans le domaine psychique ou physique, mais dans le domaine spirituel, ils ne peuvent plus rien faire pour Dieu. Et on voit des fois des chrétiens, mais moi je fais rien, je fais plus rien. Mais c'est peut-être la preuve que vous avez de la fièvre. Mais que Dieu peut poser sa main sur vous ce soir. Est-ce que Dieu peut poser sa main sur quelqu'un? Oui. Voyez, oui, Dieu s'est pas trompé. Il a vu parmi toutes ces femmes, tac, Lydie là, qui toutes priaient. Elle priait haute voix, mi-voix, je ne sais rien, c'est pas important ça. Elle priait, toutes priaient. Et il y en a qu'une qui a été profondément touchée par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans notre cœur. C'est bien ça? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Ne me répondez pas, mais qu'est-ce que vous attendez de votre vie? On serait surpris, des fois dans les églises d'ailleurs, si on faisait un petit sondage sur papier, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi venez-vous à l'église? Que demandez-vous dans vos prières, etc.? Vous avez vu Jésus quand il a commencé son ministère? Jésus était saint, il est né, il était saint, il n'a jamais péché, le Seigneur Jésus était parfait dès le départ. Et pourtant, quand il a commencé son ministère, il a commencé comment son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vraiment il a pris le baptême? Vous vous rappelez? Et quand il a pris le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Moi, c'est une affaire qui me préoccupe beaucoup parce que Jésus était parfait, il était saint. Mais là, bien sûr, il choisissait par le baptême qu'il n'avait pas besoin de prendre réellement, mais il s'identifiait aux pécheurs. Mais en vérité, le baptême, parce que pour beaucoup d'aujourd'hui, le baptême, c'est un engagement. Voilà, il s'engage, Jésus m'a béni, donc Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. Pour beaucoup, ça s'arrête là. Mais le baptême, ça représente une mort, la mort. Vous savez que l'immersion représente vraiment une mort, c'est-à-dire je n'ai plus moi qui veux faire ma propre volonté, je vais faire véritablement la volonté de Dieu. Je crois que c'est comme ça que le ciel va s'ouvrir au-dessus de nous lorsque nous commencerons à dire « Mais je ne veux pas, moi, faire ma propre volonté, je veux faire la volonté de Dieu. » Oui, je crois que nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos cœurs. Pourtant, ses disciples côtoyaient Jésus régulièrement. Vous savez, ceux à qui Jésus a ouvert l'esprit le jour de la résurrection, c'était des gens certainement très sérieux, très soucieux de faire la volonté de Dieu, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Et moi, plus je lis, des fois je me dis « Mais est-ce que tu comprends vraiment toutes les Écritures ?» En ce moment, je suis en train de méditer sur la conformité à sa mort. Vous savez, quand Paul parle de la conformité à sa mort, pour que l'abondance de la vie de Christ coule en nous, et j'ai le sentiment que j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Oui, être touché par Dieu. Qui peut demander au Seigneur ce soir, « Je voudrais que tu me touches tout à nouveau, pour que je comprenne mieux les Écritures, pour que je sache mieux te servir. Voilà, je veux bien me retrouver avec des frères et sœurs pour prier, comme Lydie, mais je veux véritablement qu'il se passe quelque chose de différent. Est-ce que vous aimeriez être davantage utile à Dieu? Est-ce que c'est important? Vous dites, voilà, tu vois Seigneur, je t'aime, je suis là, la preuve, si vous êtes là, c'est que vous aimez Dieu, mais touche-moi à nouveau, s'il te plaît Seigneur. Ouvre-moi l'esprit, que je comprenne vraiment les Écritures. Cette femme, elle craignait Dieu, elle l'écoutait et Dieu l'a profondément touchée. Les autres, pourquoi elles n'ont pas été touchées? Puisqu'elle priait. Est-ce qu'on a le droit de calculer? Je ne sais pas si on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de juger ces femmes? Mais non, on n'a pas le droit. Mais quand même, on est en droit de se poser certaines questions, de dire, mais pourquoi? Pourquoi cette femme a vraiment été touchée? Pourquoi cette femme a été bénie? Alors c'est vrai, elle craignait Dieu, elle écoutait, elle était attentive à ce que disait Paul, elle voulait apprendre quelque chose. Je crois qu'on peut prier pour prier.
peut prier pour prier. Et je dis, je pense qu'on serait étonné si on faisait remplir un petit papier, pourquoi priez-vous ? Moi, je pense que beaucoup de gens, et moi je prie pour moi. Il y a des gens, ils prient pour eux. Est-ce que c'est bien de prier pour soi ? Est-ce que vous priez pour vous ? Oui. Est-ce que vous priez pour les autres ? Voilà, déjà, vous voyez, on change de registre. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'à eux. Est-ce que vous priez pour être béni ? Est-ce que vous priez que pour être béni ? Il y a des gens qui, quand ils prient, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. On sait ce qu'ils vont dire. Bénis-moi, c'est tout le temps, bénis-moi. Moi, je crois qu'on n'a même pas besoin de le demander. Je suis persuadé que quand on cherche le royaume de Dieu, Dieu nous bénit. Je suis profondément convaincu. Enfin, apprenons à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour faire l'œuvre de Dieu, pour que les autres soient touchés, il faut que d'abord nous soyons touchés ou que nous soyons tout à nouveau retouchés par la grâce du Seigneur Jésus. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces, avec ses propres volontés. On va prendre quelques exemples. On va penser à Moïse. Moïse, vous connaissez comment Moïse a commencé, entre guillemets, son ministère quand il avait 40 ans. Vous avez lu l'histoire de Moïse ? L'histoire de la Genèse, vous avez lu ? Ça fait réfléchir quand même, cet homme, quand même, que Dieu a choisi. Il avait 40 ans, plein d'intelligence, plein de sagesse, plein de force, etc. Il nous a dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, qu'il était puissant en parole et en œuvre, et il a eu à cœur de se rendre auprès de ses frères. Vous avez eu, il était convaincu qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, vous vous rendez compte, puissant en parole, en œuvre, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Voilà. Et il pensait que... On peut le lire ce verset parce que c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est bien de comprendre que ce n'est pas que ce qu'on pense qui est important. Vous pensez certaines choses, vous, non ? Voyez, acte 7, on va lire à partir du verset 23. Il avait 40 ans. Lorsqu'il lui a cœur, voyez, il a cœur. Est-ce que c'est bien ça, quand Dieu voit qu'on a à cœur certaines choses ? Ben oui. Il a cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Déjà, il risquait beaucoup, déjà. Il envie un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui avait maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, je répète, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Vous voyez, on peut penser que les autres nous comprennent. Est-ce que c'est pas vrai ça ? Tiens, j'ai fait ça, mais les gens ils vont comprendre, je l'ai à cœur, je vais l'expliquer, je vais l'exprimer, etc. Quand on voit la suite, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Il avait 40 ans. 40 ans, puissant, en parole, en œuvre, plein de sagesse, etc. Voilà, ça, ce sont les critères du monde. La force, la puissance, l'intelligence, l'instruction, la sagesse humaine, etc. Et paf, le résultat, c'est qu'un homme est mort. Vous voyez un peu le résultat. Si on met de suite, vous avez vu, la sagesse humaine, l'intelligence, la puissance, paf, le résultat, c'est quand même qu'un hébreu s'est fait tuer. Saul de Tarse. Il était jeune aussi, il était irréprochable par rapport à la loi, etc. Partout où il passait, qu'est-ce qu'il se met ? La terreur et la mort. Oui. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre, monsieur, que vous avez la réponse, c'est dommage, mais vous avez la réponse. Vous devriez vous utiliser quelqu'un pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous prendriez ? Un jeune homme de 40 ans, prince, puissant, intelligent, sage, etc. 40 ans, ou un vieux berger de 80 ans. Aujourd'hui, s'il fallait choisir, mais vous rendez compte, un homme de 40 ans qui est puissant, fort, et un homme qui est devenu, parce que vous avez compris à qui je fais allusion, c'est la même personne, hein, qui a vieilli, qui a passé 40 ans dans le désert, et Dieu va choisir qui ? Le prince puissant ou le berger de 80 ans ? Eh bien, Dieu va choisir le berger de 80 ans. Vous savez, pour tuer un homme, il faut une certaine force, oui ou non ? Quand Moïse, je pense qu'il a fait ça facilement en plus, il a tué un homme, on peut dire, ouais, c'était un homme puissant, c'est un homme costaud, mais pour changer le cœur, est-ce qu'il ne faut pas une plus grande force encore ? C'est là la question qu'on se pose. Voilà, on peut dire, oui, mais moi je peux faire ci, j'ai telle capacité, j'ai telle intelligence, je peux faire ça, mais la question que Dieu pourrait nous poser ce soir, c'est, mais ce n'est pas ce que toi tu peux faire. C'est que, est-ce que moi, dit le Seigneur, je peux changer ton cœur ? C'est ça qu'il faut mettre en compte. Parce que je crois vraiment que pour que l'œuvre de Dieu se fasse, c'est pas tellement qu'on soit capable par nos forces, d'ailleurs qui vont servir à rien, de faire quelque chose, mais est-ce que Dieu, lui, peut nous amener à vraiment vouloir changer de cœur, comme Lydie, personne ne savait, sauf Dieu, savait que cette femme, elle voulait changer. La belle-mère de Pierre, certainement que je ne sais pas quel âge elle avait, dans quel état elle était, en tous les cas, elle était vraiment alitée, mais elle voulait servir. La preuve, c'est que de suite, elle s'est levée et elle a voulu servir. Dieu sait les gens à qui il a affaire. Dieu sait ce soir dans quel état nous sommes, etc. Mais une chose est sûre, que nos forces personnelles nous permettent d'accomplir certaines choses, c'est une chose, mais que Dieu voit en nous ce désir de vraiment changer, ça, c'est autre chose. C'est Dieu qui doit faire son œuvre. Et son œuvre, il la fera au travers de nous. C'est pour ça que la bonne disposition de cœur, c'est une chose, mais Dieu permet des épreuves. Regardez Joseph. Joseph, quand il avait 17 ans. 17 ans, c'est jeune. Hein, il y en a des jeunes ici. Hein, des jeunes, voilà. Il était dans sa maison, le préféré de son père. C'était quelqu'un, Joseph, quand il était jeune. Hein. Son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Mais c'était quand même quelqu'un. Il était bien sapé pour son époque, lui, à côté de ses frères, etc. Voilà. Est-ce qu'il pouvait faire ce à quoi Dieu va l'appeler s'il était resté dans sa maison, le préféré de papa, etc. Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Ce que Dieu va l'appeler à faire. Vous savez ce à quoi Dieu va appeler Joseph? C'est quelque chose d'hallucinant. Mais quand il a commencé à partir, attaché, je ne sais pas comment, peut-être sur le dos d'un chameau ou derrière un chameau, j'en sais rien, comme esclave, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que nous on connaît la fin, tout ça, mais à 17 ans, partir esclave dans un pays étranger, je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les droits de l'homme et tout ce que vous voudrez, c'était terminé pour lui. Et pourtant, Dieu a commencé à toucher le cœur de cet homme, au travers de ce jeune homme, au travers de toutes ces 13 années d'épreuve. C'est long 13 ans ou c'est... Oui, c'est long 13 ans, surtout quand on souffre. Et on peut réfléchir, parce qu'on pourrait prendre tous les exemples. C'est important. Parce que, voyez, moi j'ai écouté vos prières, Seigneur, touche nos enfants, touche nos conjoints convertis, et je pense vraiment que c'est la volonté de Dieu. Mais il est sûr d'une chose, il faut que d'abord Dieu nous touche. Dieu nous touche vraiment, profondément, et que ce ne sont pas... En fin de compte, ce ne sont pas les autres qui nous empêchent de changer. Ce n'est même pas le diable. Je crois que s'il y a quelqu'un qui nous empêche de changer, c'est nous-mêmes. Qui c'est qui nous empêche de changer? C'est nous-mêmes. Est-ce qu'on veut vraiment changer? Est-ce qu'on veut vraiment, vraiment dire, mais Seigneur, je suis d'accord. Même si tu permets telle et telle épreuve, oui, j'accepte. Tu veux toucher les autres, tu veux les toucher au travers de ma vie, tu veux d'abord me toucher à moi. Tu veux d'abord me changer à moi, dans la prière, dans le service. Tu veux d'abord me faire comprendre que même si les années passent, ben tant pis. 40 ans, jeune, c'est jeune? Est-ce que c'est jeune 40 ans? Non, mais il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de pareil. Prendre un homme de 80 ans pour en faire un instrument entre ses mains. Dieu ne travaille pas selon les critères du monde. Nous, on le voit des fois, on voit des jeunes. Ah, celui-là, il ferait bien pasteur, il joue de la guitare. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je l'ai entendu, ça. Ah, il parle bien, il s'exprime bien. Ah, ce gars-là, il ferait un bon pasteur. Je l'ai entendu, moi, pour plusieurs personnes. Mais vous voyez, ça, c'est des critères complètement mondains. C'est pas parce que quelqu'un parle bien que Dieu va l'utiliser, et c'est pas parce que quelqu'un parle mal ou qu'il sait pas trop bien s'exprimer que Dieu va pas l'utiliser. Ça, ce sont des critères complètement humains. Être touché par Dieu. Regardez Ésaïe. Vous connaissez Ésaïe? Ésaïe, dans le chapitre 6, c'est au chapitre 6, ah donc ça veut dire que pendant longtemps, il a beaucoup travaillé, il a travaillé pour Dieu. Si vous lisez les cinq premiers chapitres, voilà, c'est comme ça qu'on comprend. Si vous lisez les cinq premiers chapitres d'Ésaïe, vous verrez combien cet homme servait Dieu. Il le servait, c'était un pasteur un peu... il apportait la parole de Dieu. Il apportait la parole de Dieu. Et à un moment donné, il va être touché par Dieu. C'est bien d'être utilisé pour que les autres soient touchés. Il va dire des choses sévères, très sévères à sa génération. Mais regardez au chapitre 6. Vous y êtes, Ésaïe chapitre 6. Ça s'est passé quand? Dans une période de deuil. Vous savez, pendant le deuil, est-ce que ça peut faire réfléchir le deuil? Eh ben oui. L'année de la mort du roi Ozias. C'était le roi qui était mort, et je vous assure, bon, vous ne réalisez peut-être pas, mais dans une nation, quand le roi est mort, les ennemis, je peux vous assurer que c'est la porte ouverte pour attaquer le pays. Le pays est fragilisé, donc il y avait une période de fragilité. L'année de la mort du roi Ozias, qu'est-ce qui se passe ? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, vous voyez cette expression, il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, il y a au chapitre 6, ce qu'on appelle un tournant dans le ministère d'Ésaïe, il a besoin d'être touché. Dieu l'a déjà utilisé, vous lirez les 5 premiers chapitres, c'est déjà, excusez-moi l'expression, mais c'est déjà quelque chose de costaud, vraiment. Mais là, il va y avoir un tournant. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Ésaïe, c'est quand même impressionnant la quantité de prophéties qu'il y a. La majorité des Juifs qui se sont convertis sur la terre, se sont convertis par Ésaïe 53. Je ne sais pas si vous le savez. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il a besoin d'être touché. Il a besoin d'être touché. Il a besoin d'être touché. Sa vie, son cœur, son ministère. Voilà, il est dans le deuil. Mais il est à sa place. Il est où ? Il est dans le temple. Vous savez, que l'on soit dans la joie, que l'on soit dans le deuil, ça peut arriver tout ça. Hein, on peut être dans le deuil, on peut être dans la joie. Est-ce qu'il y a un temps pour tout ? Oui, je pense qu'il faut être intelligent. Bon, il y a des périodes plus difficiles que d'autres à passer. Mais une chose est certaine, on peut être dans le deuil, on peut être dans la joie et toujours être à sa place. Et ça, c'est déjà un des points les plus forts. Seigneur, tu vois où je suis ce soir ? Peut-être que vous êtes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Oui, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut être dans le deuil ? Moi, franchement, je suis plus dans le deuil que dans la joie. Je suis dans la paix surtout. Je suis surtout dans la paix. Mais moi, je crois qu'il faut être à sa place. Et ne nous autorisons pas, parce que nous sommes dans un cas ou dans l'autre, à sortir de la place à laquelle Dieu nous appelle. Je pense qu'Ésaïe a fait une expérience extraordinaire parce qu'il était vraiment dans le temple. Et je crois que ce soir, Dieu peut nous parler. Et ça peut générer tout un tas de réactions spirituelles qui vont nous aider à aller beaucoup plus loin. Il va être touché. Moi, le premier, je pense que j'ai besoin d'être touché. Ça vous intéresse que mon ministère soit touché par la grâce de Dieu ? Ou est-ce que vous voulez que je sois quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de... Voilà. C'est ça qui vous intéresse ? Vous savez, des fois, on nous dit, oh, votre prédication, c'était bien tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'une bonne prédication ou est-ce qu'on a besoin de la pensée de Dieu qui va nous toucher ? Bon, vous savez, quand on me dit c'était une bonne prédication, ça ne m'émeut pas pour autant. C'est parce que ce n'est pas pour ça que les gens sont changés. Mais quand on est vraiment touché, il va voir sa vie comme il doit la voir. Vous avez vu ce qu'il dit ? Malheur à moi. Parce que quand vous lisez Ésaïe les 5 premiers chapitres, il était raide avec les autres. Hein. Fait raide. Ils en avaient quand même besoin. Je crois qu'à 6 reprises, il va le dire. Regardez, on peut le lire vite fait. Si vous êtes dans Ésaïe 6, ou alors, regardez, 5-8. Ésaïe 5-8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le mal bien. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et se croient intelligents. Bon, quand on voit les prédications de Ésaïe, c'était quand même du costaud. Bon, c'était la volonté de Dieu. Et puis là, il va dire au verset 5, malheur à moi. C'est une chose de dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est bien. C'est bien. C'est la volonté de Dieu, parce que sinon, ça ne serait pas dans la parole. Mais c'est une chose d'entendre ce qu'on a vraiment besoin d'entendre. Et que Dieu nous accorde la grâce d'être utile pour dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre. Est-ce que c'est bien ça, quand on est utile aux autres. Et quand on peut les encourager ou les reprendre, enfin le faire d'une manière intelligente. Mais c'est quand même autre chose quand on entend vraiment ce que Dieu a à nous dire. Parce que je crois que que Dieu peut nous utiliser pour parler aux autres, mais je crois que c'est quand même beaucoup mieux quand Dieu peut vraiment nous parler. Et Ésaïe le voulait. Il avait besoin d'une parole et Dieu va la lui donner. Il voit sa vie telle qu'elle est. Il dit, voilà, malheur à moi, je suis un homme qui a vu le roi, etc. Il est paniqué et puis Dieu va le toucher. Dieu va toucher ses lèvres. Est-ce que nos lèvres n'ont pas besoin d'être touchées? Moi, l'autre jour, j'ai dit une parole désagréable, j'étais fatigué, j'étais pas bien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire une parole désagréable? Ça vous est jamais arrivé à vous? Franchement, j'étais malheureux, vraiment. Elle m'a dit, jamais tu m'as dit une parole. C'était pas, pour beaucoup de gens, c'est pas énorme, mais pour moi, c'était grave. Et j'étais malheureux, vraiment. Une parole désagréable. Vous savez, on peut blesser quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'on peut blesser quelqu'un avec une parole? Et j'étais vraiment malheureux. J'étais vraiment, vraiment, vraiment malheureux. Et bon, ben, ça peut nous arriver à tous. Je crois qu'il faut savoir demander pardon et dire, voilà, oh, je demande pardon, je t'ai dit une parole désagréable. Mais c'est bien quand Dieu nous le montre. C'est beau quand Dieu nous le montre. Oui ou non? C'est beau quand on est capable de dire, mais oui, j'ai mal parlé, je demande pardon et tout. Soyons pas... Ésaïe a pu le dire. Je veux dire, si Ésaïe l'a dit, je veux dire, je pense qu'on est, pas, on est tous dans le même lot et ça peut nous arriver de dire une parole désagréable. Mais qu'on puisse le reconnaître. Et Ésaïe, et il est dans ce bon état d'esprit. Et je crois que pour être touché, on peut même parler de Lydie. Lydie, là, parmi toutes ces femmes en train de prier, c'est sûr que moi, j'aurais dit, mais Seigneur, touche-les toutes. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un état de cœur. Et dire, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Parce qu'il faut être prêt à l'entendre. Moi, je me souviens la fois où une sœur m'avait appelé, je voulais raconter, une sœur m'avait appelé parce que dans l'église, il y avait eu beaucoup de résultats, tout ça. Et une sœur m'appelait, elle a mis des gants et tout pour me parler. Elle m'a dit, tu sais, Gérard, j'ai quelque chose à te dire. Ça me gêne de te le dire, mais je pense que c'est bien. Je dis, bon, vas-y, dis-le au bout d'un moment. Elle me dit, j'ai peur que tu tombes... Non, c'est ma femme qui est d'abord venue. Ma femme, elle vient me voir, mais tu sais, Gérard, je voudrais te parler, j'ai quelque chose à te dire. Et voilà. Elle me dit, moi, je trouve que tu deviens orgueilleux. Je dis, mais n'importe quoi. Je dis, de quoi je me mêle? Écoute, va-t'en, laisse-moi prier, va faire ton truc. Et elle est partie. Et je m'appelle en fait, oh, tu veux pas que je te le dise? Eh bien, puis si c'est pas moi, Dieu permettra que ce soit un autre qui te le dise. Et clac, elle a fermé la porte. Et il y a une sœur qui appelle, et voilà, qui me dit, voilà, Gérard, j'ai quelque chose à te dire, ta. Bon, elle a pas pris les gants comme Isabelle, hein, mais elle a mis 2 ou 3 minutes. Je dis, mais vas-y, dis-moi. Elle me dit, j'ai peur que tu deviennes orgueilleux. Ah, je dis, c'est bon, merci. Mais c'est vrai que dans l'église du Seigneur, on devrait dire merci. On devrait être capable de dire, moi j'ai appelé Isabelle, je dis écoute, j'ai un truc à te dire, je crois que tu avais raison. Voilà, mais est-ce que c'est bien de reconnaître? Ben oui, je dis ça parce que bon, je m'en souviens très bien. Et c'est un état d'esprit. Parce qu'il y a des gens, oui, mais dis-le, si tu as quelque chose à dire, mais dis-moi-le, qu'on en parle. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Je crois qu'il faut être Seigneur, parle-moi. Parce que c'est bien de dire parle-moi. Mais c'est quand même mieux d'être prêt à ce que Dieu nous parle. Et quand même, on a besoin d'être touché. Nos lèvres, vous avez vu? Il toucha ma bouche. Ceci a touché tes lèvres. Mais peut-être c'est nos lèvres qui ont besoin d'être touchées. Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est notre cœur, peut-être c'est notre intelligence. Vous avez vu, il leur ouvrit l'esprit. Je ne sais pas. Peut-être nos mains. Vous voyez, Jésus a touché les mains de la belle-mère de Pierre. Peut-être que, je ne sais pas, notre corps entier peut-être. Seigneur, touche ma vie entière. Touche mon corps, touche mon cœur. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, Ésaïe, moi je trouve que c'est beau cette honnêteté dans la Bible. Vous voyez, parce qu'on ne voit pas au moins les hommes comme des super-hommes, vous voyez, des super-héros. Ce sont des gens comme vous et moi. Ça ne vous rassure pas? Moi, ça me rassure de voir que ces grands hommes de Dieu, que Dieu a utilisés, ben, c'était des hommes comme vous et moi. Hier, je lisais la vie de Charles Stud. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Stud. Oui, le champion de Dieu, le titre du livre. Mais c'est un homme, à un moment donné, il dit, voilà, j'étais dans la déprime, j'étais découragé, j'avais envie de mourir, je demandais à Dieu qu'il me reprenne parce que j'en avais assez. Vous lisez que ça, vous dites, qu'est-ce que c'est ce bonhomme? Puis quand vous lisez le reste... Eh bien, moi, c'est des livres que j'aime, moi. J'aime pas, moi, les livres, on ne voit que le côté positif. Moi, j'aime quand on voit tout. tout de la personne. Parce que la Bible a cette honnêteté de nous montrer même les difficultés que tous ces grands hommes de Dieu, on peut rencontrer. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi je vous assure que ça me fait beaucoup de bien, parce que ce sont des gens qui ont été honnêtes devant Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire la parole de Dieu et comprendre toutes ces luttes et tous ces combats. Donc mes frères et sœurs, soyons simples, soyons vrais. Qui a besoin d'être touché? Les pécheurs que nous côtoyons ont besoin d'être touchés. Et nous sommes malheureux de voir tant de gens qui sont perdus. Vous n'êtes pas malheureux de voir tous ces gens perdus? Si, franchement, vous n'êtes pas malheureux, ça fait pitié quand on voit. Mais, alors Seigneur, moi j'ai besoin que tu me touches tout à nouveau. J'ai besoin que tu touches mes lèvres, parce que voilà, j'ai mal parlé. J'ai besoin que tu touches mes mains, parce que je veux réapprendre à te servir. J'ai besoin tout à nouveau de cette vie. Alors Seigneur, oui, touche-moi tout à nouveau. Et je crois, vous croyez que Jésus va se priver de vous aider si vous faites cette prière? Vous savez, on dit bénis-moi, bénis-moi, mais peut-être que la bénédiction la plus grande, c'est peut-être une épreuve. Est-ce que ça peut arriver une épreuve? Joseph, quand il est parti attaché derrière son chameau, peut-être, vous vous rendez compte, à 17 ans, dans un pays, dans une langue étrangère, sans pouvoir faire appel, parce que nous, on est là avec tous nos trucs. Mais imaginez-vous, cet homme à 17 ans qui est parti, est-ce qu'il n'était pas en train d'être béni? Par l'épreuve. Esaïe, voilà, malheur à moi, on aurait pu dire, mais ce type, il n'a rien à faire dans le ministère, qu'est-ce qu'il fabrique d'ailleurs dans le temple? Mais Dieu, il sait nous parler. Et moi, je bénis le Seigneur pour la façon dont il est capable de nous parler. La belle-mère de Pierre avait besoin d'être touchée. Lydie, Dieu savait où elle était, il savait comment la toucher. Moïse, c'était pas quand il était fort et puissant que Dieu pouvait l'utiliser. Il fallait que 40 années passent. 40 années, c'est long, je trouve. Vous ne trouvez pas que c'est long? 40 années, j'avais calculé. Je crois que je l'ai mis sur un papier. Je l'ai marqué sur une de mes notes. J'ai dû le marquer quelque part. Ça fait, je ne sais pas combien, 14 600 soirées. 14 600 soirées à s'endormir, à poser des questions. Pourquoi? Et si j'avais pas tué cet homme? Parce que ça a dû tourner quand même. Et si ceci? Et si cela? Et si j'avais fait autrement? Moi, je crois que pendant ces 40 années, eh bien, son cœur changeait. Alors, si Dieu vous a pas utilisé à 20 ans, si Dieu vous a pas utilisé à 40, si Dieu vous a pas utilisé à 60, si, je crois que Dieu, il sait quand est-ce qu'il peut nous utiliser. Faites-lui confiance. Seigneur, touche ma main. Touche mes yeux. Touche ma bouche, touche mon corps, mais Seigneur, touche-moi de nouveau. Et je crois que Dieu le fera. Oui, la fièvre, c'est terrible la fièvre. À Tahiti, il y a une fièvre qui s'appelle la dengue. C'est une fièvre, quand vous l'avez, vous devenez mais complètement malade. C'est-à-dire que vous délirez. Et les gens qui ont la dengue, ça fait peur vraiment, parce qu'ils sont sur leur lit, ils délirent. Il racontait n'importe quoi. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Je me rappelle d'un gars qui avait la dengue. Et quand je préparais cette prédication, cet après-midi, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas ce qui arrive à certains chrétiens? Parce que quand on les entend parler, ils racontent n'importe quoi. Est-ce que ça peut arriver des fois qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi? Eh bien, ils ont la fièvre, spirituellement. Alors que Dieu nous aide à avoir une bouche, des mains, un cœur, une vie qui lui soit utile. On va fermer les yeux quelques instants. Ouais. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu nous touche tout à nouveau? C'est bien d'être simple, d'être vrai. On a dû dire à Jésus, tu sais, la belle-mère de Pierre, comme par hasard, vous avez compris l'expression, Jésus allait ce soir-là dans la maison de Pierre. Vous savez, ce soir, le Seigneur savait qu'il viendrait. Il n'y a pas de hasard. Dans cette réunion de prière à Philippe, Dieu savait qu'il y avait cette femme. Marchandre de pourpre, vous vous rendez compte? De pourpre, elle vendait du maquillage. Et Dieu l'a bénie. Enfin, elle vendait du produit pour faire du maquillage. Et voyez, Dieu l'a bénie. Comme quoi, vous savez, que Dieu nous accorde cette grâce de regard, comprendre que Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde à notre cœur. Est-ce que ça vous rassure que Dieu regarde à votre cœur? Nous sommes comme ces femmes à Philippe en train de prier. On n'est pas au bord de la rivière, mais c'est un peu pareil. Alors prions le Seigneur tout simplement, et que Dieu nous touche tout à nouveau. Notre Père, quelle grâce de savoir que tu es grand. Tu voyais la belle-mère de Pierre sur son lit avec sa fièvre. Tu voyais parmi toutes cette fameuse Lydie, qui avait la crainte de ton nom. Et tu nous vois ce soir. Mon Dieu, quelle grâce ne nous as-tu pas accordé de pouvoir venir dans ta maison. Merci Seigneur. Et avant que les autres ne soient touchés, touche-nous à nouveau Seigneur. Nous voyons comment tu as fait dans la vie de Joseph. Nous voyons comment tu as fait dans la vie de Moïse. Et nous voyons bien que tu n'utilises pas les critères que les hommes utilisent. Tu utilises des critères profonds dans le cœur. Seigneur, change-nous s'il te plaît Seigneur. Change nos cœurs, change mon cœur, que je puisse, comme Ésaïe, avoir la joie d'avoir toujours nos lèvres, mes lèvres touchées, nos lèvres, nos cœurs, nos mains. Oui, Jésus, nous voulons vraiment te faire confiance et te demander tout à nouveau de nous toucher, afin que nos vies soient utiles. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.